Bonjour à tous, on se retrouve chez Radio Zaï aujourd'hui. On reçoit Pierre qui va nous répondre à la question « Peut-on vraiment entreprendre pendant ses études ?» Si tu veux bien, Pierre, je vais te demander de te présenter pour commencer.
Eh bien, d'abord, merci beaucoup Romane pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors, je m'appelle Pierre Pervez-Mazabra, je suis le cofondateur de Cogito Ergo Sum. C'est un nom qui est un peu barbare, je le conçois. Ça vient de la phrase de Descartes « Je pense, donc je suis ». Nous, on l'a un petit peu tourné à l'envers, et ça veut dire « Je code, donc je suis », parce qu'on est une agence digitale. On est une agence digitale qui aide les entreprises à implémenter en fait, des solutions d'IA dans leur quotidien pour améliorer leur productivité. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'on va venir conseiller, développer, implémenter et auditer les entreprises pour atteindre un ROI. Parallèlement à ça, je fais également des études à la fac de droit. Je suis en deuxième année à Aix-Marseille et ça se passe très bien. On va en parler bien évidemment. Et j'ai également donc un troisième cursus au sein de l'Institut Portalis, qui est une sorte de DU au sein même de la fac et qui va venir explorer à travers des séminaires deux fois par semaine des thématiques connexes à celles du droit.
J'enchaîne directement. Pour toi, à quoi ressemble une semaine type entre cours, partiels, sûrement la vie perso et aussi du coup ton projet entrepreneurial?
Bien sûr. Alors, une semaine type, ça a bien changé entre l'année dernière où je n'avais pas forcément de projet entrepreneurial et cette année où là j'ai plus qu'un projet, j'ai concrètement une entreprise. Notamment, je vais devoir faire des choix. Je dois prioriser certaines choses. Donc globalement, ma semaine type, il ne va pas y avoir beaucoup de cours magistraux. J'ai décidé de faire une croix dessus, je rattrape les choses, les cours autrement, mais je vais aller que aux cours, on va dire, obligatoires. J'essaye de rattraper le week-end tous les cours magistraux. Ouais, j'essaye de rattraper les cours qui ne sont pas forcément obligatoires le week-end. Mais globalement, dans une agence, on va avoir beaucoup de visioconférences avec des clients, des prospects, avec des membres de notre équipe. Et donc, on ne peut pas les faire à n'importe quels horaires. On ne peut pas les faire le week-end. On ne peut pas les faire tard le soir. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, je dois laisser en fait, de l'espace dans mes journées pour pouvoir avancer sur tous ces sujets-là.
J'enchaîne directement. Donc, comme tu l'as dit, tu étais étudiant. Est-ce que tu peux nous parler un peu des peurs qui reviennent le plus souvent chez les étudiants qui veulent se lancer? On entend parler souvent, par exemple, de la peur de l'échec ou du jugement.
Bien sûr. Alors, pour le jugement, moi, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas trop été confronté à ça. Mais tout simplement parce que je ne parle pas vraiment de mon activité aux personnes qui m'entourent, aux autres étudiants. J'évite de trop en parler parce que effectivement ça peut être assez vite pris comme de l'arrogance. L'image de l'entrepreneur n'est pas forcément très bonne pour tout le monde. Je sais que par exemple mon associé qui lui était dans un autre cadre, était à Sciences Po, a pas mal souffert de critiques, de remarques. Il a annoncé un petit peu se lancer dans l'entrepreneuriat avec ses différents projets. Moi, j'ai eu de la chance, je n'étais pas confronté à ça. Par contre, on va avoir, c'est une phrase qui est un petit peu à la mode, mais c'est quand même une réalité, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, qui suis-je pour lancer un projet? Mais justement, la personne, on va dire, l'entrepreneur qui est en nous, on le découvre qu'en faisant le projet, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et moi, avant d'entreprendre, je ne savais pas exactement quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses. Et c'est justement en entreprenant que j'ai compris que je n'étais pas bon partout. Ce n'est pas possible d'être bon partout, mais qu'il y avait certains domaines, j'avais certaines qualités pour aller au bout, pour concrétiser ces choses-là. Et donc j'ai choisi au sein même de mon projet de me spécialiser là-dedans et de ne pas essayer d'être partout et de gérer à la fois la vente, le marketing, la gestion, la comptabilité. Il faut apprendre à déléguer et à faire confiance.
Ok, parfait. Donc on vient d'en parler un peu des peurs qui reviennent souvent. Est-ce que toi personnellement, il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre et comment t'as fait pour la dépasser?
Je ne sais pas si c'est vraiment une peur, je pense que c'est plus simplement un défaut. Mais c'est bateau à dire, mais mon perfectionnisme, c'est-à-dire vouloir que tout soit parfait avant de monter quoi que ce soit. Avoir un business plan qui soit nickel, réfléchir à ma proposition de valeur pendant des mois et des mois, mon premier projet, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y avait une phrase qui est attribuée à Montesquieu, qui est assez connue, mais que je trouve intéressante, c'est-à-dire « le mieux est l'ennemi du bien ». Et en entreprenant, je pense que j'ai réussi à vraiment pleinement intégrer ce mantra. Et maintenant, je ne réfléchis pas des jours et des jours avant de prendre une décision. J'expérimente, j'échoue, et ensuite, je recalibre.
Pour les étudiants, sûrement, qui nous écoutent, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux répondre à la phrase « je n'ai pas le temps d'entreprendre pendant mes études » Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Comment tu expliques ce qui est possible de faire ou non?
Je pense que c'est un vrai défi, mais si on s'organise, ça restera un mythe. En fait, personne n'a vraiment le temps, c'est peut-être plus une question de priorité. Les études, ça offre quand même une flexibilité qu'un CDI ne pourra jamais donner. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de 9h à 18h, il y a des vacances longues, je sais qu'il y a des aménagements possibles avec le statut d'étudiant entrepreneur. C'est possible également de faire des années de césure. Donc, je pense que c'est possible. La clé, ça va peut-être être de travailler, on va dire, plus intelligemment. Moi, j'essaye de l'appliquer, notamment en ne révisant pas au dernier moment, ce que je faisais un peu avant, c'est-à-dire d'étaler vraiment, dès la première semaine, mes révisions. Parce que quand on a une boîte, c'est impossible de prendre 2 semaines de révision intensive. Donc, c'est mieux vraiment de l'étalonner comme ça sur tout un semestre. J'ai essayé aussi de me renseigner sur un petit peu des méthodes d'apprentissage qui peuvent être plus performantes que simplement réécrire ou relire ses cours. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui est vraiment pas mal d'un docteur en neurosciences américain qui s'appelle Justin Sung et qui, moi, personnellement, m'a fait découvrir plein de méthodes, de méthodologies pour arriver à passer moins de temps à travailler tout en retenant encore plus de choses et en étant plus performant dans ce que je fais.
Incroyable. Merci pour ta réponse. En tout cas, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus aidé concrètement? Donc, au sein de Pépite, le dispositif, il propose quand même des cours. Je sais qu'il y a des événements qui permettent aussi d'agrandir son réseau. Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé le plus?
Bien sûr. Pépite, je pense que ça a été un tremplin incroyable. Pour commencer, ça, je pense, m'a enlevé, alors non pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire de ne pas savoir où commencer un projet. Parce que quand on ne vient pas du milieu entrepreneurial, quand on n'a pas de proches autour de nous qui entreprennent, on ne sait pas ce que c'est un business plan, on ne sait pas comment lever des fonds, tout ça c'est très abstrait. Et Pépite va vraiment réussir, enfin pour moi, de mon expérience, à nous tracer un peu une sorte de roadmap. On sait globalement quelles vont être les grandes étapes à franchir pour mener un projet jusqu'au bout, le business plan sur lequel on est jugé à la fin du cursus, je pense que ça le démontre bien. Donc ça va être la première chose qui va être intéressante, tout simplement à travers les rencontres que l'on va faire, à travers les différents cours qui vont être donnés et l'examen final, ça va être ce syndrome de la page blanche. Ensuite, effectivement, moi j'ai rencontré mon associé à Pépite, donc s'il y a bien déjà une chose que je devrais retenir, c'est ça, rencontrer des gens qui peuvent avoir les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, bien que pour entreprendre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'associer avec son clone, hein, la complémentarité, c'est aussi une grande force. Mais donc voilà, et puis évidemment, tous les événements, les rencontres que j'ai faites avec des mentors, là je tiens d'ailleurs à dédicacer Jean-Baptiste Josseau, que j'avais rencontré lors du second cours, et il y a une heure, j'étais en train de discuter avec lui de mon projet actuel. Donc voilà, c'est des rencontres qui restent dans le temps et qui ne s'inscrivent pas uniquement durant en fait, le cursus.
Mmh. T'en parlais tout à l'heure que tu as dû faire un peu des concessions ou du moins aménager un peu ton emploi du temps. Donc quelles autres concessions tu as dû faire et est-ce qu'il y en a que tu as refusé de faire volontairement pour que ton projet et les études cohabitent ensemble?
Au niveau de ce que j'ai sacrifié, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas aux cours magistraux. Parce que évidemment, il y a beaucoup de valeurs qui peuvent être apportées dans les cours magistraux, plus que dans un simple PDF avec toutes les notes. Mais j'ai la chance d'être quand même assez entouré et d'être allé en cours la première année pour m'être fait des amis qui, eux, sont assidus. Et donc, je dois optimiser un maximum mon temps et simplement retenir les idées les plus importantes qui généralement ont été prises bah, voilà, par mes camarades dans leur prise de notes. Mais donc voilà, je ne vais pas aux cours magistraux. Les stages, j'ai dû quand même faire une croix dessus, parce que ça, c'est impossible pour moi de m'absenter pendant 2 semaines et de laisser mon entreprise tourner. J'espère qu'un jour, j'aurai assez délégué et tout roulera pour être capable de le faire, mais les stages, j'ai dû tirer une croix dessus. De toute façon, l'expérience professionnelle avec mon projet entrepreneurial, je pense que j'en ai déjà acquéri pas mal. Est-ce que je vais refuser de sacrifier? Ça va être un peu bateau, mais ma santé, le sport et mes relations proches. Par contre, il y a quelque chose que j'aurais aimé préserver et que j'ai un petit peu oublié, ça va être en fait mes passions, qui étaient globalement le cinéma, le dessin, la lecture, le saxophone, le théâtre. J'ai fait une croix dessus sans vraiment le vouloir, simplement parce que j'ai plus le temps. Et j'aimerais essayer de regagner du terrain à l'avenir, parce que ça fait également partie de moi et j'ai pas envie de passer ma vie à me définir comme soit étudiant en droit, soit entrepreneur. J'aimerais aussi me définir bah, voilà, par mes passions.
Parfait. J'aimerais te demander aussi quel type de soutien t'as le plus aidé jusqu'ici. J'imagine que c'est surtout ton entourage, mais est-ce que tu peux en parler un peu plus?
Évidemment, mon entourage, mais dans une moindre mesure, je reste, comme je l'ai dit, je reste assez pudique sur ce que je fais du côté entrepreneurial. Mes parents ne comprennent pas forcément, je vais leur parler de business plan, de business model, c'est pas quelque chose qui va leur parler. Ils me font confiance là-dessus, donc c'est déjà un soutien, je pense, qui est suffisant. Parce que je regarde autour de moi et j'ai des camarades qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat et ça inspire beaucoup de craintes et de critiques de la part de leurs parents. Moi, c'est pas le cas. Ils ne m'encouragent pas forcément, mais ils ne me descendent pas, donc je pense que c'est nécessaire, enfin, c'est suffisant. Ensuite, ce qui va être effectivement réseau étudiant, donc Pépite, ça a été un tremplin incroyable. Mais également, donc, il y a l'association des étudiants entrepreneurs qui a été fondée par des étudiants de Pépite, justement. Il y a un collectif dont je fais partie qui s'appelle Units, qui a été monté par Noé Béranger, un ami à moi que j'ai rencontré également dans le cadre du cursus. Et donc, ça, je continue à travers ces réseaux-là de baigner dans des personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques que moi. Parce que voilà, des entrepreneurs, étant donné que je suis une agence B2B, j'en croise tous les jours, des chefs d'entreprise, mais ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques que moi, en tant qu'à la fois étudiant, en tant qu'entrepreneur et en tant que jeune entrepreneur surtout. Et puis je vais avoir également un petit peu l'accompagnement de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. On est incubé avec Codito dans le programme Startup Shaker. Ça nous permet voilà, d'avoir une ouverture sur le monde pro, de continuer de se faire challenger. Et c'était pour moi une suite logique à ce que j'ai bénéficié à travers ce dont j'ai bénéficié à travers Pépite.
Ok. Maintenant, si tu devais casser un cliché sur l'entrepreneuriat étudiant aujourd'hui, ce serait lequel?
Je pense que ça serait l'idée qu'il faut en fait avoir bah, justement une idée révolutionnaire, d'être visionnaire. Je pense pas. Je pense qu'il faut pas partir d'une idée. Il faut surtout résoudre un problème que l'on a constaté. Je pense que également, entreprendre, c'est pas quelque chose qui va être réservé aux écoles de commerce, aux génies du business. Faut connaître en fait ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que voilà, même si un étudiant fait un master en biotechnologie agro-industrielle et que ce dernier connaît rien à la structuration de boîte, au business, au levée de fonds, c'est pas grave parce que on peut aller chercher des personnes qui voilà, vont être bons en vente, qui vont apporter vraiment de la complémentarité. Et pendant que toi, bah, t'arrives avec une expertise technique que personne d'autre n'a. Donc voilà, je pense que ça serait les deux clichés, partir pas d'une idée, mais d'un problème, et ensuite que l'entrepreneuriat s'est réservé à des personnes qui sont dans des écoles de co.
Ok. Bah écoute, Pierre, merci d'être venu. C'était très intéressant ce que tu nous as raconté. Et ton témoignage servira, j'en doute pas, à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour les étudiants qui nous écoutent, quelqu'un qui a une idée mais qui n'ose pas forcément se lancer?
Je pense que, dans tous les cas, tu n'auras jamais autant de liberté et aussi peu à perdre qu'en étant étudiant. Donc en fait, c'est vraiment le bon moment pour lancer des projets. Je pense aussi que l'idée parfaite, comme je l'ai dit, n'existe pas. Le perfectionnisme tue la performance. Elle se construit vraiment en avançant. Et au pire, le pire scénario qu'on pourrait rencontrer, c'est voilà, j'ai appris énormément et j'ai rajouté une ligne sur mon CV. Et je pense que ça va, il y a pire. Et donc voilà, je pense que c'est important de se lancer, même de commencer petit à petit. Ça va toujours être le premier pas qui sera coûteux, mais le reste, ça sera généralement une belle aventure.
Merci pour ton intervention. Nous, on se retrouve au prochain épisode et merci de nous avoir écoutés.